et il faut bien le dire si adroitement enjôleur, voisinait avec le sens pratique une tendance au rêve et, horreur, aux visions. Ici encore, les choses s'embrouillaient en raison de cette dualité dont François lui-même ignorait la cause profonde. Quoi qu'il fît, il était la proie de Dieu. Travers, faute, défaut, passion même, ne pouvait que retarder l'inévitable coup de foudre. L'histoire en marche. Les voyageurs arrivaient sans cesse, suivis d'un cortège de nouvelles, pareil à des journaux vivants. Et, dans ses allées et venues fréquentes d'Italie en France, Bernardone rapportait les derniers récits de la lutte des communes picardes et flamandes pour leur liberté contre le régime ecclésiastique et féodal. Dans l'ombre de la grande salle où son père recevait ses amis, le petit garçon devait écouter avidement ces échos de désordre. Le sang coulait dans ces histoires passionnantes, et François grandissait dans une atmosphère d'agitation politique et de rumeurs de guerre. Déjà en Italie, 6 ans avant sa naissance, après de multiples échecs où Milan avait été rasé, la Ligue lombarde, ralliant Gênes et les cités du Pô, avait cette fois battu les troupes impériales, le 29 mai 1176, à Legnano, et obtenu de Frédéric Barberousse la reconnaissance de droits communaux qui ne laissaient à l'empereur que son image de marque, à savoir son titre, sa pompe et toutes les apparences inutiles du pouvoir. En 1187, une nouvelle secoua la chrétienté. Le sultan avait pris Jérusalem. Contre Saladin, les princes d'Occident se croisèrent, mais seul l'empereur exécuta son vœu. Malheureusement, alors que la Syrie lui était ouverte, il se noya en se baignant dans le Cydnus, et les troupes allemandes se dispersèrent bientôt. Le corps de Barberousse n'ayant pas été retrouvé, la légende s'en empara. Il y a toujours de quoi faire une légende au Moyen-Âge, et le plongea à son tour dans les eaux d'une léthargie prophétique dont les remous nous parviennent jusque dans les poèmes de Heine. Le monde changea. Il changeait. Comme toujours en apparence, car les hommes au fond gardent les mêmes inquiétudes. Alors Henri VI, fils et successeur de Frédéric Barberousse, tomba à bras raccourcis sur l'Italie comme par vengeance familiale et reprit toutes les franchises accordées, installant ses lieutenants partout où un soulèvement était à craindre. C'était un grand homme long et pâle de 24 ans, immodéré dans la fatigue comme dans les plaisirs, et qui n'avait pour code de justice que sa propre loi. Il soutenait son sens des affaires par ruse et patience. Le mot de grâce n'existait pas pour lui. Il avait épousé Constance, héritière du royaume de Sicile, et cette grande femme blonde, élevée à Palerme chez les religieuses du Saint-Sauveur, puis à la cour de ses frères, véritable sultan baptisé, séduisit la cour nordique de son mari. D'amour entre eux, point. C'était un de ces mariages de raison d'État. La femme avait 11 ans de plus et l'homme le compensait par un autoritarisme sans nuance. Pour prendre possession de ses nouveaux fiefs, il se rendit à Messine, soumettant au passage à la manière forte les cités les plus effervescentes. À Assise, le duc Conrad d'Urslingen fut chargé d'imposer la paix germanique et s'installa dans la forteresse qui dominait la ville, la Rocca Alta, d'où ses troupes firent régner l'ordre. Il était duc de Spolète et vivait d'un château à l'autre. Il y eut un moment de tranquillité forcée, mais prospère,